Nous allons commencer aujourd'hui une nouvelle leçon sur le livre de Ruth. Comme on le fait à l'habitude, on va regarder le livre d'une manière, un bref survol. On va examiner, comme d'habitude, là, les différents éléments qui font en sorte qu'on peut comprendre sommairement le livre. D'abord, on va regarder l'arrière-plan du livre. Ensuite, on va regarder le but principal du livre. On va poursuivre en examinant son plan, le plan du livre, et on va regarder les thèmes, les différents thèmes majeurs, surtout les majeurs qu'il y a dans le livre de Ruth. On va regarder également les personnages clés, les versets clés, et les leçons pour le peuple de Dieu d'alors et d'aujourd'hui, et aussi la place et la présence de Jésus-Christ à l'intérieur de ce passage-là, de ce livre-là. Et on va ajouter quelques autres observations qui vont nous être utiles à la compréhension du livre. Dans la vie, nous trouvons parfois des joyaux inestimables, dans des endroits invraisemblables. Par exemple, on peut trouver une fleur d'une beauté exquise dans une crevasse rocailleuse ou un arc-en-ciel superbe éclairant soudainement un ciel morne et sombre ou encore des paysages saisissants au tournant de routes peu prometteuses. Il en est de même dans la Bible. Le livre de Ruth est une histoire noble et magnifique au milieu de l'apostasie rampante et dégénérée. C'est comme une étoile scintillante au milieu d'un ciel ténébreux, ou comme une rose odorante au milieu d'un désert aride, ou comme une pierre précieuse au milieu de débris, ou encore comme une odeur enivrante au milieu d'une atmosphère pestilentielle, ou enfin comme une noble et pieuse chevalerie au milieu de mœurs dégradantes et impies. C'est le seul livre des Saintes Écritures entièrement dédié à une femme. Il y a également le livre d'Esther, mais il diffère beaucoup parce que son emphase n'est pas uniquement sur la personne d'Esther. Ruth est une personne d'origine païenne, vivant parmi les Juifs et mariant un Hébreu de la lignée royale de David. Esther est une femme juive vivant parmi les païens et mariant un roi païen sur le trône d'un grand empire. Ruth a un dossier de conduite irréprochable et rempli de vertus. C'est très certainement un modèle de femme à imiter. Les noms du récit en hébreu ont une signification remarquable. Par exemple, on a Bethléem, ou qui veut dire la maison du pain, Élimélec, qui veut dire mon Dieu est roi, Maclon, qui veut dire faible, Kiljon, qui veut dire maladif, Naomi, qui veut dire ma gracieuse, Mara, qui veut dire amertume, Ruth, qui veut dire amitié, et Boaz, qui veut dire en lui est la force. Alors, on va regarder comme premier point l'arrière-plan. Donc, on parle d'abord de l'auteur. L'auteur est inconnu et non mentionné dans le récit. Cependant, selon la tradition juive, on attribue le livre au prophète Samuel. Pour ce qui est de la date, alors l'action se déroule à la période des juges, quelque part entre la mort de Josué, qui a eu lieu en 1350 avant Jésus-Christ, et l'ascension de David au trône d'Israël, qui a lieu à peu près l'an 1000 avant Jésus-Christ. Le cadre de l'histoire, l'histoire arrive alors qu'une famine sévère sévit en Israël. Élimélec et Naomi quittent Bethléem et se dirigent vers le pays des Moabites pour échapper à la famine. Rappelons que les Moabites étaient de grands ennemis d'Israël. On va passer au deuxième point qui est celui du but principal du livre. Alors, le livre de Ruth est une merveilleuse histoire qui arriva à une époque très difficile. C'était l'époque des juges, lorsque, en ce temps-là, il n'y avait point de roi en Israël et que chacun faisait ce qui lui semblait bon. En plus de cette anarchie, le pays expérimentait douloureusement une très sévère famine. Dans ces circonstances, il était difficile d'être le peuple de Dieu. Le livre a donc deux principaux buts. Il présente une histoire merveilleuse, concise et profonde, un vide se transformant en plénitude, de désespoir se changeant en espérance, d'amertume et de tristesse se métamorphosant en joie et en célébration. Il illustre comment Dieu peut conduire nos circonstances. Et le deuxième but, il informe sur la généalogie du roi David qui constitue la lignée messianique. On va regarder maintenant le troisième point qui est le plan du livre. Alors, si on avait donné un thème au livre, on pourrait dire que c'est le suivant. L'amour qui souffre règne finalement. Alors, on va regarder les principales idées des quatre chapitres. Alors, dans le chapitre 1, on a la résolution de l'amour. On a le noble choix de Ruth. Alors, Ruth, la fille, est fidèle et elle s'attache à Naomi dans sa douleur. Dans le chapitre 2, on a la réponse de l'amour. On a l'humble service de Ruth qui devient glaneuse et elle répond aux besoins pressants de sa belle-mère Naomi. Dans le chapitre 3, on a la requête de l'amour. Alors on a le tendre appel de Ruth. Ruth, la vertueuse suppliante, en appelle aux chevaleresques parents. Alors, dans le chapitre 4, on a la récompense de l'amour, donc les joies conjugales de Ruth. Donc, Ruth devient l'épouse et la mère bien-aimée, et il se réjouit dans la consommation du bonheur. Ici, on pourra faire une observation très intéressante concernant la généalogie. On dit qu'il y a 60 générations d'Adam aller jusqu'à Christ. Donc, 6 groupes de 10 générations. Et le dernier nom de chaque groupe est fortement représentatif d'une grande vérité messianique. Alors, quand on divise un des groupes, ça part de Adam, Seth, Enoch, Kenan, Mahalalel, Jéred, Enoch, Methuselah et Lamech. Et le dernier des noms, on parlait des groupes de 10, 10 générations. Le dixième, c'est Noé. Et le nom Noé en hébreu signifie repos dans Genèse chapitre 6, verset 8. Et quand on continue, un autre groupe de 10 qui continue, on a Sem, Arpakshad, Shelach, Héber, Peleg, Réu, Serug, Nakor, Terak, pour se terminer par Abraham. Et on se souvient que Abraham veut dire père d'une multitude, et on peut voir cela dans Genèse au chapitre 12 et versets 1 à 3. Et le troisième groupe, on voit Isaac, Jacob, Judas, Pérets, Esrom, Aram, Aminadab, Naasson, Salmon, pour se terminer par Boaz, et qui veut dire « En lui est la force ». On lit cela dans Ruth, chapitre 4, verset 22. Alors, quand on regarde les trois derniers noms, Noé, Abraham et Boaz, on voit le repos en Noé, Abraham qui devient le père d'une multitude, et Boaz, dont le nom signifie « en lui est la force ». Bien entendu, tout cela pointe vers l'arrivée future du Messie. Et on pourrait faire beaucoup d'autres observations de ce style-là, mais c'est très intéressant d'en faire une comme cela pour voir comment le Seigneur parle à l'intérieur des Écritures par les noms de plusieurs personnages. Quatrième point qu'on va regarder, c'est les thèmes majeurs. Alors, dans le livre de Ruth, on voit que la providence de Dieu, dans nos circonstances quotidiennes, et les tendres soins que Dieu prend de son peuple. Donc, un des thèmes, c'est vraiment la providence dans nos circonstances quotidiennes. Et un autre thème, c'est la loyauté, l'obéissance et la confiance en Dieu. Et un autre thème, c'est celui de la rédemption. L'histoire montre l'ancienne pratique du mariage Lévira, donc le devoir d'assurer une descendance à un frère, et du rachat de la propriété par le proche parent. Alors, on pourrait développer l'ensemble de ces thèmes-là, mais c'est vraiment trois thèmes qui sont présents à l'intérieur du livre de Ruth. Maintenant, les personnages clés. On a bien entendu le personnage de Naomi, qui est l'épouse d'Élimélec, et elle s'est rendue au pays de Moab pour échapper à la famine qui sévissait à cette époque-là à Bethléem. Alors, après la mort de son mari et de ses deux fils, elle retourna à Bethléem avec sa belle-fille Ruth. La tristesse de Naomi était si grande qu'elle changea son nom en celui de Mara, qui signifie « amertume ». On voit ça, par exemple, dans le chapitre 1, au verset 20. Alors, un autre personnage, c'est celui de Ruth, bien entendu. Ruth est une Moabite qui avait marié un fils de Naomi. Après la mort de son mari, elle demeura fidèle à sa belle-mère et démontra une grande foi envers le Dieu d'Israël. Elle maria Boaz et donna naissance à des fils. Elle est l'arrière-grand-mère de David et dans la lignée messianique. On peut voir la vérité de cela dans l'évangile de Matthieu, les 6 premiers versets, du chapitre 1. Généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Abraham engendra Isaac, Isaac engendra Jacob, Jacob engendra Judas et ses frères, Judas engendra de Tamar, Pharès et Zara, Pharès engendra Esrom, Esrom engendra Aram, Aram engendra Aminadab, Aminadab engendra Naasson, Naasson engendra Salmon. Salmon engendra Boaz de Rahab. Boaz engendra Obed de Ruth. Obed engendra Isaïe. Isaïe engendra David. Le roi David engendra Salomon de la femme d'Uri. Donc, on a regardé jusqu'ici Naomi et Ruth. On va maintenant regarder le personnage de Boaz. Alors, Boaz, à l'intérieur du récit, c'est un proche parent qui est plein de compassion et qui est riche, un proche parent de Naomi, et qui accepta d'assumer le mariage du Lévira et devint le rédempteur de Ruth et de Naomi. Naomi venait avant Ruth sur la liste des propriétaires du droit de rachat, mais elle céda ce droit à Ruth. Maintenant, on va regarder quelques versets clés. Ruth 1, versets 16 et 17. Ruth répondit, « Ne me presse pas de te laisser, de retourner loin de toi. Où tu iras, j'irai, et où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple, et ton Dieu sera mon Dieu. Où tu mourras, je mourrai, et j'y serai enterré. Que l'Éternel me traite dans toute sa rigueur, si autre chose que la mort vienne à me séparer de toi. » On a aussi, au chapitre 2, verset 12 de Ruth, « que l'Éternel te rende ce que tu as fait, et que ta récompense soit entière de la part de l'Éternel, le Dieu d'Israël, sous les ailes duquel tu es venu te réfugier. Alors, on va regarder maintenant les leçons pour le peuple de Dieu. Alors, le peuple de Dieu d'alors, de cette époque-là. Alors, durant la période sombre du temps des juges, et même dans les conditions de famine et de souffrance, Dieu montra sa présence par des voies puissantes et providentielles. Dieu avait promis de donner à Israël la terre comme signe de l'accomplissement de l'Alliance. À travers l'histoire de Ruth, Dieu arrangea les circonstances de manière à amener la naissance du roi David, qui est une nouvelle espérance pour son peuple. À travers David, Dieu amènerait l'ultime solution au problème du péché et du mal, soit Jésus, fils de David, fils de Dieu et rédempteur des élus. Alors, si on avait tiré une leçon pour le peuple de Dieu d'aujourd'hui, on pourrait dire que l'histoire de Ruth nous avertit de ne pas placer les gens dans des catégories définitives. En Israël, les Moabites étaient des païens et des ennemis de Dieu. Les Moabites sont les descendants que Lot, le neveu d'Abraham, eut de sa fille aînée. On voit le récit de cela dans Genèse 19, verset 37, et de Genèse 11, verset 27. Deutéronome, chapitre 23, verset 3 à 6, nous dit la chose suivante concernant les Moabites. Deutéronome, chapitre 23, verset 3 à 6. L'Ammonite et le Moabite n'entreront point dans l'assemblée de l'Éternel, même à la dixième génération et à perpétuité, parce qu'ils ne sont pas venus au-devant de vous avec du pain et de l'eau sur le chemin lors de votre sortie d'Égypte, et parce qu'ils ont fait venir contre toi, à prix d'argent, Balaam, fils de Béor, de Pétor en Mésopotamie, pour qu'ils te maudissent. Mais l'Éternel ton Dieu n'a point voulu écouter Balaam, et l'Éternel, ton Dieu, a changé pour toi la malédiction en bénédiction parce que tu es aimé de l'Éternel, ton Dieu. Tu n'auras souci ni de leur prospérité, ni de leur bien-être, tant que tu vivras à perpétuité. Alors, on serait porté à penser que Dieu n'utiliserait pas une Moabite comme ancêtre du grand roi David. Cependant, Dieu nous rappelle que ses voies ne sont pas nos voies, telles qu'on peut le lire dans Ésaïe, chapitre 55, verset 8. Maintenant, on va examiner un peu rapidement la place et la présence de Jésus-Christ dans le livre de Ruth. Dans son livre « Survol de l'Ancien Testament », volume 1, de l'auteur Garrett Crossley, il est donné un excellent traitement du rapport entre le livre de Ruth et la présence de Jésus-Christ et de son Église. Voici ce qu'il dit. Le Nouveau Testament ne présente pas Boaz comme un type de Christ, ni Ruth comme un type de l'Église. Mais à la lumière de l'ensemble de l'Écriture, il est difficile, voire impossible, de ne pas voir en Boaz et en Ruth des personnages qui préfigurent Christ et son Église. Alors, on voit Ruth en tant que type de l'Église qui est composée de païens. Alors, Ruth symbolise la composante païenne de l'Église de Jésus-Christ. Son histoire annonce de façon prophétique l'amour de Dieu pour le monde non-juif. Elle démontre que la grâce étonnante atteignant ceux qui sont sous la malédiction. Ruth était Moabite. La loi de Dieu l'excluait de l'Alliance. La grâce de Dieu, dans le récit, l'y inclut. Alors, le texte, on avait regardé la panne tantôt, le texte de Deutéronome 23, versets 3 à 6, qui nous dit qu'il n'entrerait pas dans l'Alliance. Alors, on va regarder maintenant. Ruth était une étrangère, loin de Dieu. On le voit, par exemple, dans Éphésiens, dans le Nouveau Testament, Éphésiens, chapitre 2, versets 12 et 13, et aussi verset 19. « Souvenez-vous que vous étiez, en ce temps-là, sans Christ, privés du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. » Alors, Ruth était une étrangère, loin de Dieu. Ruth était aussi, elle abandonne père et mère, patrie et famille, comme on le voit par exemple dans Matthieu 19, 29, qui fait un lien avec la même idée dans le Nouveau Testament. « Et quiconque aura quitté, à cause de mon nom, ses frères ou ses sœurs, ou son père, ou sa mère, ou sa femme, ou ses enfants, ou ses terres, ou ses maisons, recevra le centuple et héritera la vie éternelle. » Ruth était aussi une personne pauvre et dans le besoin. Et si on fait une comparaison avec l'histoire du salut dans le Nouveau Testament, on peut lire la chose suivante dans Romains 5, versets 6 à 8. « Car lorsque nous étions encore sans force, Christ, au temps marqué, est mort pour des impies. À peine mourrait-on pour un juste. Quelqu'un, peut-être, mourrait-il pour un homme de bien. Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. » Autre idée, c'est que Ruth a été rachetée par l'union du mariage. Alors, racheter, c'est payer le prix ou la rançon nécessaire à l'affranchissement d'un esclave ou à la libération d'un prisonnier. Les chrétiens ont été rachetés à grand prix, comme on peut le lire dans 1 Corinthiens, chapitre 6, verset 20, et un très grand prix. 1 Pierre, chapitre 1, verset 18 et 19, nous dit « Sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau, sans défaut et sans tache. » Maintenant, on a regardé quelques caractéristiques du personnage de Ruth qui serait un type de l'Église composée de païens. Maintenant, on peut regarder Boaz en tant que type de Christ. Alors, Boaz, le proche parent rédempteur, est un type de Christ, le rédempteur. Alors, il se devait d'être lié par le sang à celui qu'il fallait racheter. Hébreux, chapitre 2, versets 14 et 17. Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il a également participé lui-même, afin que, par la mort, il anéantit celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Et verset 17, « En conséquence, il a dû être rendu semblable en toutes choses à ses frères, afin qu'il fût un souverain sacrificateur, miséricordieux et fidèle dans le service de Dieu, pour faire l'expiation des péchés du peuple. » Donc, la première idée qui est un type de Christ, comme Boaz, qui est lié par le sang. Deuxième chose, c'est qu'il se devait d'être en mesure de payer le prix. Si on fait un parallèle avec le Nouveau Testament, 2 Corinthiens, chapitre 8, verset 9, « Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, pour vous, s'est fait pauvre de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté, vous fussiez enrichis. » Autre caractéristique de Boaz comme type de Christ, il doit regarder le pauvre et le nécessiteux avec compassion. On regarde dans le Nouveau Testament, dans Actes 10, verset 38. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Quand nous venons à Christ, dans la repentance, à ses pieds percés, en le suppliant d'étendre sur nous la couverture pourpre de son amour, il répond aussitôt favorablement. Alors, une des choses caractéristiques aussi, c'était qu'il doit racheter les personnes et les biens. Titre 2,14, qui s'est donné lui-même pour nous afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé pour les bonnes œuvres. Apocalypse 5, verset 9, et il chantait un cantique nouveau en disant, tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu, par ton sang, des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Autre passage dans le Nouveau Testament, celui de Romains 8, versets 19 à 23. Aussi, la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise, avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude de la corruption, pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Or nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. Et ce n'est pas elle seulement, mais nous aussi, qui avons les prémices de l'Esprit, nous aussi nous soupirons en nous-mêmes, en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps. Et aussi, autre caractéristique, c'est qu'il se devait d'accepter de racheter. Alors, on peut faire un parallèle avec un passage du Nouveau Testament, Jean 10, versets 17 et 18. Le Père m'aime parce que je donne ma vie afin de la reprendre. Personne ne me l'ôte, mais je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner et j'ai le pouvoir de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. On a aussi un autre passage, Galates chapitre 2, verset 20. J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Donc, quelques petites applications de cette très, très brève introduction au livre de Ruth. La première, c'est « Apprenons du livre de Ruth comment la Providence intervient dans nos circonstances quotidiennes, par amour, par grâce et par miséricorde. » Deuxième application, « Étudions les riches et profondes leçons de la doctrine de la rédemption. » Nous apprendrons la bonté du Christ, son amour insondable pour chacun d'entre nous et ses tendres soins dans nos vies, malgré les apparences parfois trompeuses. Troisième application, méditons sur les détails de la vie de Ruth. Elle est un modèle de foi lorsque les circonstances de nos vies sont difficiles. Prions l'Éternel de nous donner, de tirer leçon des livres de l'Ancien Testament, par sa grâce et pour sa gloire. Amen.